En général, on ne connaît pas encore très bien Martin Caron. Avec le nouveau président de l'Union des producteurs agricoles, j'ai voulu d'abord brosser un tableau rapide de sa ferme, sa famille et ses principales préoccupations. Tout d'abord, la ferme.
Oui, producteur laitier céréalier à Louisville, en Mauricie.
Vous avez un troupeau assez important ou dans la moyenne?
Ben, je vous dirais juste un petit peu en bas de la moyenne, là. On a à peu près 55 vaches laitières présentement, et puis on a un troupeau de 85 têtes en tout.
Et comme grain, comme céréales, qu'est-ce que vous produisez?
Dans le grain, ben, on fait du maïs, on fait du soya, on fait de l'orge brassicole, on fait aussi du blé de consommation humaine. Puis par rapport à ces deux céréales-là que je fais, à l'occasion, je vais faire de l'avoine. Et naturellement, j'ai peut-être une stratégie différente quand je fais ces céréales-là, mais j'utilise le terme agriculture raisonnée en n'utilisant pas des intrants, que ce soit au niveau de l'engrais ou que ce soit au niveau des pesticides, parce qu'on a des marchés de proximité ici qui nous permettent ça.
Votre orge brassicole, est-ce qu'elle va à une microbrasserie de la région?
Oui, elle va à des microbrasseries de la région, quelques-unes, là, dont une tout près de chez nous, c'est la microbrasserie Dépareillé qui est là et puis qui utilise notre orge brassicole. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps expliquer un peu aux gens. Des fois, ils nous disent « OK, t'es dans le laitier, t'es dans les grains, commerce à l'extérieur. » Mais on fait aussi marché de proximité. Là. Des gens, des fois, oublient ça, mais on a des cultures comme ça qui nous permettent, ou des marchés de niche qui nous permettent de faire ces productions-là. Et puis qu'elle s'est transformée, c'est vraiment la proximité. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un contact avec les gens, de dire, ben, des fois, on voudrait en faire un petit peu plus, mais tout dépendant qu'est-ce qu'ils consomment à l'épicerie ou dans les marchés, bien, ça a de l'influence sur nous.
Et pour ce qui est de votre blé panifiable, ça aussi, on peut le retrouver dans des pains, pas nécessairement là, à Louisville même, mais au Québec sûrement.
Oui, oui, au Québec sûrement, on a des ententes avec, à l'occasion, c'est des moulins de Soulanges ou avec d'autres distributeurs ou transformateurs qui sont dans la région ici. Là. Ça fait qu'il y a vraiment des marchés, ça prend de l'expansion. Et c'est quelque chose d'intéressant. Ça nous permet aussi d'avoir une stratégie, je vous dirais, globale au niveau de la phytoprotection sur mon entreprise.
Là. Louisville, c'est très réputé pour son sarrasin, sa galette de sarrasin. Vous en produisez pas de sarrasin, vous?
On a déjà produit beaucoup dans les années, dans le temps de mes parents qui étaient là, puis on avait de la transformation, mais présentement, on soutient quand même l'événement. Là. C'est un des aspects qui est très réputé ici, et je fais partie, je suis un membre de la confrérie du sarrasin, et quand on fait partie de la confrérie du sarrasin, ben on fait la promotion du sarrasin, entre autres sur les marchés ou sur les aliments qu'on peut faire avec le sarrasin.
Et votre ferme étant toute proche du cœur de la municipalité de Louisville, ben vous pouvez y aller à pied, comme on dit, puis goûter de la bonne galette de sarrasin quand le festival de la galette de sarrasin peut se tenir là en personne, peut-on dire.
Oui, exactement. Puis c'est une tradition chez nous, les gens de ma famille viennent, que ce soit mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, viennent ici, puis on prend le temps de déguster ça. J'ai des amis aussi, il y a une tradition de venir fêter ça à Louisville. Malheureusement, avec la pandémie, ça nous a bloqués pour les deux dernières années, mais il reste quand même, c'est un événement grandiose ici, puis on a une fierté. Puis d'ailleurs, au tout début, ben on contribuait là avec la culture de sarrasin, tout ça, et puis c'est qu'on continue là cette belle tradition-là.
Votre ferme, c'est la ferme Macha, si je ne me trompe pas. Macha, Ma pour Martin, puis Cha pour Chantal, c'est ça? Vous êtes associé
oui.
Avec votre conjointe, là?
Oui, je suis associé avec ma conjointe Chantal. C'est depuis 92 qu'on a acheté et qu'on a acquis la ferme de mes parents. Déjà, moi, j'avais des parts avec mon père Gilles et ma mère Aline sur l'entreprise. L'entreprise qui s'appelait Giron, la ferme Giron, dans le temps. Et on a acheté pour créer Ferme Machin. Et depuis ce temps-là, et c'est rajouté à ça mon garçon qui travaille sur l'entreprise. J'ai une fille aussi, Elisabeth, qui n'est pas dans le domaine agricole, mais mon garçon a étudié là-dedans. Et lui, il regarde du côté de la formation pour faire de la transformation de la bière. Ça fait que présentement, il suit un cours là, de brasseur de bière.
Est-ce que en plus d'éventuellement brasser de la bière, il serait ce qu'on pourrait appeler votre relève sur la ferme même comme telle?
Oui, il y a un côté, je vous dirais qu'il y a un côté végétal qui l'intéresse, tout à volet-là. L'exemple de produire un grain qui peut servir pour la transformation d'aliments, que ce soit de la bière, que ce soit d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'ils voient ce volet-là. Et du côté laitier, il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Mais de notre côté, Chantal et moi, on regarde avec un des outils qui a été créé derrière moi, qui s'appelle Artère. Ça qu'on regarde, entre autres, pour voir si on pourrait pas transférer à une relève non apparentée. Fait qu'on est en processus là-dedans.
Du côté syndicalisme agricole, vous êtes depuis de nombreuses années impliqué dans l'UPA à différents niveaux. Là, tout d'abord au niveau local, vous avez accédé ensuite à l'exécutif, à la vice-présidence. Quels seraient les dossiers là, qui vous ont le plus préoccupé lorsque vous étiez vice-président et premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles?
Il y a des dossiers, entre autres, ça remonte avec mon implication. Puis là, on parle des années 84, quand j'ai commencé dans la relève agricole. Puis on parlait de valoriser la profession, d'expliquer, de vulgariser davantage aux consommateurs, aux citoyens, qu'est-ce qu'on fait sur nos entreprises. Parce que j'ai vu grandement mes parents travailler très fort sur l'entreprise. Puis je me disais tout le temps, mais ils mettent des heures, mais c'est pas valorisé. Les jeunes ne le savent pas. Et pourtant, c'est un métier très noble, c'est de nourrir la population. Et il y avait une fierté. Et je vous dirais, un des dossiers... C'est vraiment la valorisation et la vulgarisation aussi de notre métier. Là. Et là, c'est pas juste le côté alimentaire, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis, c'est un peu ça qui est un des enjeux que je trouve assez important. Là. Cette communication-là qu'on peut avoir et qu'on doit avoir avec les citoyens et les consommateurs. Là.
Parce qu'il y a encore bien des choses à faire pour resserrer ce lien-là entre la société en général et le monde agricole.
Oui, ça continue, puis je vous dirais au quotidien, les producteurs, on fait des travaux qui amènent un projet de société parce qu'on veut nourrir notre population, on veut nourrir sainement notre population. On habite le territoire. Quand on habite le territoire, ben par rapport au paysage, par rapport à toute la biodiversité qui est là, la protection des eaux, de nos lacs, tout ça, l'agriculture ou nos producteurs productrices contribuent à ça. Et c'est des éléments comme ça qu'il faut être capable de mieux vulgariser. Et aussi d'avoir beaucoup plus d'outils pour être capable d'arriver à ces objectifs-là, sur ces demandes-là, parce qu'il y a des demandes qui sont là au niveau des ententes sociétales.
Et parlant d'entente sociétale, vous êtes, vous, maintenant, comme nouveau président de l'Union des producteurs agricoles, et je pense que vous l'étiez depuis fort longtemps, là, vous êtes d'accord avec cet objectif qu'on vise maintenant au Québec, dans le cadre ou avec la poussée générale que donne la politique bioalimentaire du Québec, là, justement, de resserrer nos marchés, notre proximité avec le monde agricole, et, comme on le disait un peu, là, tous les liens de la société avec le secteur de la production. Production a commencé par l'encouragement, l'achat de produits locaux. Là.
Oui, exactement. Il faut travailler très fort là-dessus. Et c'est pour ça qu'à l'Union des producteurs agricoles, bien, quand on a mis l'application qui est là, Mangeons local, c'était un des outils qu'on voulait favoriser le partage des citoyens et des consommateurs qui étaient capables, sur une application, d'avoir les entreprises et ils pouvaient en même temps regarder quelles sont les cultures que les gens font, est-ce qu'il y a des produits que je peux acheter, là. Et je suis bien conscient de ça, parce qu'à Nathan-Louisville, proche de la ville, bien souvent les jeunes me demandent, mais Martin, cette culture-là, cet âge-là, ou ce blé-là, à quoi que ça sert, là? Et les jeunes ne savent pas, là, quelle est la transformation, là. Et c'est le même principe par rapport, que ce soit de l'élevage ou à d'autres produits, là. Ça qu'on doit vraiment se rapprocher. Et puis ça, il faut le faire avec l'ensemble de la chaîne, puis avec nos partenaires aussi. Ça l'empêche pas de faire au niveau de l'exportation aussi, parce que faut dire que quand même, on a une très grande fierté. On a des produits de très haute qualité ici au Québec qu'on vend sur les marchés d'exportation, puis qu'on a une reconnaissance. Je peux penser juste rapidement le sirop d'érable côté acéricole, le côté du porc aussi. On développe des produits puis des marchés, puis les produits sont dans la demande partout à travers la planète.
Et aussi, parce que j'ai eu l'occasion de le constater moi-même sur le terrain, vous vous êtes occupé aussi jusqu'à maintenant, très particulièrement, de certains dossiers environnementaux. Est-ce que je me trompe?
Exactement, puis ça remonte à mes débuts en agriculture. J'ai été membre fondateur de mon club agro en région, parce que je me disais tout le temps, on voulait jouer plus qu'un rôle, plus de faire des choses administratives, mais de bien comprendre la nature des choses, la santé de nos sols. Là. C'est vrai que oui, c'est un dossier qui me tient grandement à cœur.
Monsieur Martin Caron, si on s'intéressait maintenant au dossier chaud de l'actualité agricole, agroalimentaire, et vous, comme président de l'Union des producteurs agricoles, vous êtes déjà plongé là, de plein pied là, dans ces dossiers-là. Si on regarde les questions environnementales, les questions climatiques, les pesticides, là, ça reste des dossiers qui sont très préoccupants pour vous. Là. Si on prend tout d'abord les questions climatiques, là.
Dans un premier temps, il faut bien réaliser quelque chose. Les changements climatiques, ils sont bien réels, ils sont bien là. On vit avec ça. Il faut travailler. D'ailleurs, on a un projet AgriClimat qui amène les producteurs à avoir des communautés de discussion ou des groupes de discussion, que ce soit dans le secteur animal ou végétal. Et ça, ça nous permet d'aller plus loin puis d'avoir un peu, bon, mais les enjeux, les défis qu'on a, mais quels sont davantage les solutions? Et ça, qu'est-ce qui est intéressant, on a eu des nouvelles approches qui sont arrivées dernièrement, qui permettent l'implication pour mettre au centre les producteurs agricoles. Je pense entre autres à tout notre dossier du littoral. On peut parler du lac Saint-Pierre, je suis à Louisville, je suis très près de cette situation-là, mais ça en englobe quand même un petit peu plus que 200 entreprises agricoles. Et on a été avec cette façon de faire-là, c'est-à-dire un projet laboratoire vivant, qui amène les producteurs à être partie prenante des décisions, autant avec les chercheurs qu'avec les conseillers sur le terrain. Ça que ça, je pense que c'est une approche de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. Puis quand on parle d'innovation et de recherche, bien, ça inclut ça aussi. Trouver d'autres nouvelles façons d'arriver à nos objectifs, là. Et ça, c'est un des éléments que j'ai lancé au congrès dans mon message, entre autres. Il faudrait davantage focusser beaucoup plus sur les rendements de la performance des producteurs, sur les objectifs atteints, plutôt qu'un côté réglementaire ou du côté de conformité. Et quand on parle des règlements de conformité, mais on parle plus du côté administratif. Et dans ce temps-là, mais quand on fait ça, mais nos conseillers, que ce soit nos agronomes, nos biologistes ou autres personnes, mettent beaucoup plus de temps à remplir de la paperasse, comme on dit, que d'être sur le terrain avec nous, puis faire de la recherche, puis d'être accompagné. Et c'est sur ce virage-là qu'on a vraiment besoin, là, dans tout son ensemble au niveau de l'État. Je sais que c'est pas évident, mais il reste quand même, on met beaucoup trop de temps présentement sur le côté de règlement de conformité, plutôt de regarder, de créer et d'innover au niveau de l'agriculture, puis de nos pratiques, et d'avancer tout le monde ensemble.
Et en disant ça, vous confirmez le fait que les agriculteurs et agricultrices doivent être impliqués, doivent être partie prenante là, pleinement de cette question environnementale et des diverses solutions qu'on doit trouver. Là.
Exact. Et quand on amène le côté plus administratif dans la chose, les producteurs et productrices se sentent dégagés. Ils se disent « OK, c'est un papier qu'ils ont besoin ». À place de faire tout le processus, de dire « OK, pourquoi je le fais ?» Pourquoi qu'une couverture végétale à l'automne, c'est bénéfique, là? C'est pourquoi c'est bénéfique? C'est là-dessus qu'il faut travailler, plus de dire que, ben, des fois, j'utilise moins d'intrants, moins de ci, moins de ça, là. Mais comment je peux faire le gain par rapport à cette santé des sols-là, là? Je pense qu'on va amener l'agriculture à un autre niveau. Puis je sens que, on a beaucoup de producteurs qui sont rendus là, là. Mais en même temps, tu sais, là, c'est qu'on paye des agronomes, on paye des conseillers techniques qui viennent sur nos entreprises. Une portion, peut-être 25-40% du temps pour un côté administratif de paperasse, là, et non plus d'accompagnement. Puis avec la pénurie de la main-d'œuvre qu'on parle, dans tous ces secteurs-là, ben, on va avoir des choix à faire, là. Et ça serait vraiment important de préciser ça. Puis il y a peut-être un autre volet aussi qu'il faut rajouter. Plusieurs États, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on parle beaucoup des biens et services écologiques. Je sais que notre ministre, M. Lamontagne, avec la PAD, a fait des annonces, fait des promesses de ce côté-là sur les pratiques agricoles, la reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais il faut vraiment aller plus loin. On voit qu'en Europe, ils sont rendus plus loin qu'aux États-Unis aussi. Et de l'autre côté, ben, il faut que les agents soient au rendez-vous aussi. Puis là, on va interpeller au niveau du fédéral dans ce cas-là.
La question spécifique des pesticides, c'est un problème réel. D'une part, croyez-vous que tous les agriculteurs sont bien conscientisés sur l'impact de ces produits-là, d'une part, et d'autre part, le problème, est-ce qu'il se trouverait pas justement dans le fait qu'on n'a pas de solutions alternatives, on n'a pas assez investi dans la recherche pour trouver des solutions alternatives?
Oui, c'est un des aspects, c'est que l'investissement au niveau de la recherche va être assez important. On a eu des coupures dans les dernières années du côté de la recherche et ça a des impacts. Puis vous comprenez, quand on investit de la recherche, les retours ne se font pas nécessairement dans un an ou dans deux ans. On voit ça à long terme, dans 5 à 10 ans. Ça fait que ça, cet élément-là d'investissement dans la recherche et l'innovation va être assez important. Les producteurs, de plus en plus, sont au fait des enjeux et des risques avec les pesticides. Dans un premier temps, c'est au niveau de la santé, avec toute la formation, l'information qu'on divulgue aux producteurs, de dire de se protéger, d'avoir des bons équipements de protection individuelle. Les équipements sont bien adaptés à la réalité. Ça fait que ça, c'est une première phase. Puis la deuxième phase, mais c'est de le voir un petit peu plus global. Puis c'est ça que je mentionne quand on parle au niveau de la recherche. Des fois, on fait de la recherche peut-être plus verticale. Exemple, on peut parler des pesticides, mais il faut mettre ça plus large, puis il faut avoir une vision de développement puis de recherche sur le côté horizontal beaucoup plus large, en voulant dire la santé de mes sols. Se préoccuper dans un premier temps de la santé de mes sols. Si mes sols puis mes plantes sont en bonne santé, puis que je suis capable de vraiment travailler très fort là-dessus pour avoir la performance, l'optimum de la performance, ben automatiquement, je vais moins utiliser de pesticides parce que la plante va avoir pris sa place. Mais ça prend ça la santé pour faire ça. Ça, vous comprenez? Faut revenir un petit peu plus à la base puis de voir peut-être plus sur un côté horizontal de l'enjeu de l'environnement et ensuite ben, les travailler du côté vertical. Comme l'exemple au niveau des pesticides, mais on voit que nos producteurs ont fait des efforts au cours des dernières années, puis ça continue à se faire, puis il faut être fier parce qu'on a quand même un outil qui a été développé ici, puis que je trouve qu'on ne met pas assez en évidence, qui s'appelle Sage Pesticide. C'est un des outils qu'on met en avant-plan en tant que l'UPA, qu'on dit qu'on devrait utiliser davantage. Ça nous permet d'avoir un IRPEC et un IRSST. Un IRPEC qui est un indice au niveau de l'environnement, puis un IRSST qui est un indice au niveau de la santé. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement utilise ces indices-là pour se comparer à d'autres pays. Et nous, ici, au Québec, on est avancé avec cet outil-là. Il manque juste peut-être des applications à être valorisées. Je sais que le ministère du MAPAC, entre autres, le ministère de l'Agriculture, veut le développer davantage. Mais pour moi, c'est un outil. Puis cet outil-là va me servir en tant que producteur comme indicateur sur mon entreprise, sur les gestes que je fais, et pourrait servir en même temps d'indicateur au gouvernement. Et c'est là, quand je parlais au niveau de la performance et du rendement, plutôt que de la règle de conformité, si on est capable de développer un outil qui va me servir, moi, en tant que producteur, puis qui va servir à l'État, tout le monde va être gagnant, là. Et c'est cette vision-là que je veux continuer à travailler, là, avec le gouvernement et avec tous nos producteurs.
Ici Lionel Levac. Dans mon prochain reportage, je poursuivrai avec Martin Caron ma discussion sur les grands dossiers qui préoccupent le monde agricole ou agroalimentaire de façon plus globale. Nous parlerons, entre autres, de pénurie de main-d'œuvre. Au revoir.